Je ne peux définitivement pas chanter ce chant sans être ému. Ça m'est pratiquement impossible parce qu'il y a pour moi une puissance dans cette évocation de ce qui nous a été donné, de ce vers quoi nous devons tendre, quelque chose vraiment de particulier qui nous lie au Seigneur. Et en particulier depuis notre enfance, en fait, ceux qui ont une expérience de la vie chrétienne, alors depuis l'enfance ou bien depuis un certain nombre d'années où il y a eu des expériences faites avec le Seigneur, et puis finalement, voilà, d'autres choses qui sont intervenues et qui ont rendu la vie peut-être moins, justement, proche de Dieu, moins fervente. Et puis, ce désir initial qui revient, qui est toujours là, d'aller à la rencontre du Seigneur. Alors, justement, c'est ce que j'apportais ce matin lors de l'émission de radio. On lit l'Exode en ce moment. Et il y a donc la libération avec donc le passage de la mer Rouge par la puissance de Dieu. Et déjà là, je rappelle que l'ouverture de la mer, c'est un miracle. Certains rationalistes et scientifiques qui prennent quand même au sérieux la Bible, bon, certains ne prennent pas au sérieux la classe immédiatement au niveau des fables, mais ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu, la Bible, essaient quand même de trouver une explication rationnelle à ce passage de la mer en trouvant des circonstances où il se peut que, enfin, le peuple de Dieu ait été placé devant cette mer à un moment favorable où ils ont pu donc traverser. Mais quand on lit le texte vraiment simplement, c'est une impasse que d'essayer de raisonner avec la, on peut dire, l'intelligence ou la sagesse ou la science humaine. Le texte dit que le peuple est passé à travers la mer avec l'eau qui formait une colonne à gauche et une colonne à droite, comme une muraille de chaque côté. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée lors du passage de la mer Rouge et qui ensuite s'est refermée sur l'ennemi. Et ça nous dit tout ce qu'est notre salut. Notre salut, c'est le miracle de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne sommes jamais sauvés par notre capacité, par notre effort, par notre sagesse, par notre propre intelligence. Nous sommes sauvés par le miracle de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, par le miracle du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul donc établit un parallèle donc avec le passage de la mer et le baptême, hein, dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset, enfin c'est tout le début du chapitre, où il fait la comparaison entre la vie chrétienne et ce qu'a expérimenté Israël. Donc initialement, 10, je vais lire verset 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, puis voilà, l'apôtre continue hein, à examiner ce que le peuple a vécu dans l'Exode. Mais voilà, le point de départ, c'est le passage à travers la nuée d'abord, hein, n'oublions pas, associée, puisque c'est la nuée qui a protégé premièrement le peuple, la nuée qui est la présence de l'Esprit Saint sur le peuple, c'est cette nuée qui étant devant le peuple pour le guider, s'est transportée à l'arrière du peuple pour le protéger du retour du Pharaon, et ensuite il y a eu la mer qui s'est ouverte, et le peuple qui a pu passer et être définitivement délivré de la puissance ennemie. Et c'est ce qui se passe lorsque nous prenons notre baptême dans la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous sommes couverts par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes pris avec Jésus dans sa mort, le péché est laissé dans la mort de Christ et nous pouvons ressortir vivants avec Christ. C'est donc l'œuvre de la puissance de Dieu. C'est en Jésus-Christ que la puissance et l'amour de Dieu ont été manifestés par sa mort pour nous à la croix et par sa résurrection. Et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu en anticipation avant que vienne le Seigneur. Donc, mais voilà, après être passé à travers la mer, Moïse avec le peuple a chanté un cantique. Et ce cantique nous dit, enfin je vais revenir un peu en arrière, parce que au moment où la mer était encore fermée et où le Pharaon s'approchait, le peuple, qui avait pourtant été délivré par des puissants miracles, le peuple était déjà prêt à retourner en arrière. Était déjà prêt, en fait, était déjà rejoint par sa faiblesse, par son incrédulité. Et ils disent à Moïse... N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais combien de fois, donc, nous sommes dans cette situation où nous prenons des bonnes dispositions pour Dieu parce que le contexte est favorable, Dieu a agi, et puis quelque chose intervient qui nous menace de l'extérieur. Et il semble que ce soit cette menace extérieure qui nous fasse nous décourager. Mais en réalité, c'est parce que en nous-mêmes, nous ne sommes pas fermes. En nous-mêmes, nous n'avons pas encore réglé notre vrai problème, notre vrai rapport avec Dieu. Nous ne sommes pas encore dans la confiance totale. Et donc nous nous saisissons de la situation défavorable extérieure à nous, de ces ennemis qui interviennent, de ces circonstances défavorables pour... nous dire, ben non, ce n'est pas cela encore, je reste dans mon ancienne condition. Non, le Seigneur veut nous amener à une véritable délivrance, et nous verrons bien sûr, avec la suite de l'Exode, que finalement, après cette délivrance, il y a encore toutes les expériences de la vie avec Dieu, de la véritable connaissance de Dieu qui doivent se faire pour arriver là où Dieu veut nous mener, car c'est cela qui apparaît dans le cantique. Alors c'est d'abord je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. C'est au chapitre 15, donc de l'Exode. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts et sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb et dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est là que apparaît le but, une première fois le but pour lequel Dieu a délivré. Tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Alors, il y avait des ennemis derrière qui ont été abattus, mais il y a encore des ennemis devant. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Et tu les amèneras. Et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. C'est là que le Seigneur veut nous amener, au sanctuaire de sa présence. Il nous délivre pour nous amener au sanctuaire de sa présence, dans sa sainteté, dans sa maison, sur la montagne sainte, dans le lieu préparé pour l'adoration, pour le service de Dieu. Voilà ce que le Seigneur fait. Mais pour arriver à ce lieu saint, eh bien, il y a encore des étapes à franchir, il y a encore des ennemis à voir tomber, non pas par notre force, mais à voir tomber par la puissance de Dieu, de la puissance qui nous a libérés à la croix du calvaire, est à l'œuvre dans nos vies pour nous amener devant le Seigneur. C'est le but. L'Éternel règnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Jésus-Christ est venu. Il a porté nos péchés à la croix. Il est mort pour nous. Le Satan a été dépouillé de son autorité, de sa puissance sur nous. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Ceux qui se font baptiser dans le nom du Seigneur Jésus sont définitivement mis à l'abri de la puissance de l'ennemi. Et le miracle a eu lieu, il est accompli. C'est une chose qui est passée maintenant. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et il s'agit pour nous de mettre notre foi totale en lui par cet acte déjà initial, qui est de nous faire baptiser en son nom pour le pardon de nos péchés et ensuite de marcher en apprenant à le connaître et à vaincre les difficultés qui nous environnent pour arriver au lieu de sa présence. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et donc nous nous joignons à cette louange qui est bien plus grande encore, puisqu'il s'agit de célébrer le Fils de Dieu qui nous a libérés par sa mort et sa résurrection. Et nous passons vraiment notre vie à glorifier le Seigneur qui a fait éclater sa gloire en donnant Jésus-Christ, mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Oui. Mais cela nous est, ces expériences de la foi, nous les faisons en relation avec la parole de Dieu que nous méditons. Et pour vraiment être dégagé de ce monde, être sanctifié, être porté vers la maison du Seigneur, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui est devant nous et que nous méditons. Et je dis cela par rapport au fait que la semaine dernière, j'ai commenté avec les frères et sœurs en Creuse le psaume 119. Et ce psaume, qui est le plus long des Écritures, hein, qui est un psaume alphabétique construit d'après toutes les lettres de l'alphabet hébreu, eh bien, nous n'allons pas le lire, bien sûr, en entier ici, mais ce psaume, c'est une déclaration d'amour à la parole de Dieu et en même temps une supplication pour être sauvé par le Seigneur de cette parole. Parce qu'au plus on s'approche de la parole de Dieu, au plus notre état de misère est révélé. Nous en prenons de plus en plus conscience. Alors je vous lis le commencement et la fin de ce psaume. D'abord, une béatitude, une promesse. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Et cette prière, elle va revenir au long du psaume. Prends-moi la vie. Ne m'abandonne pas, sois là présent, parce que je désire te plaire, je désire marcher selon tes commandements, je hais les choses mauvaises, je hais ceux qui se détournent de toi, mais sauve-moi. C'est finalement le cri qu'il y a dans tout ce psaume 119, dont je vous lis les derniers versets, le 169 à 176. Tiens, voilà, ça commence par un cri, mais c'est exactement cela. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Vous vous rendez compte, après avoir exalté la parole de Dieu, dit son amour pour Dieu et sa parole, donc pendant tout ce cantique, à la fin, dire encore, je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur. Que Dieu puisse nous trouver dans cet état d'esprit, de lui demander de nous chercher, parce que nous réalisons à quel point nous sommes pécheurs et même dans notre bonne volonté, incapables de suivre ces préceptes qui pourtant, au fur et à mesure que nous les méditons, nous pénètrent et en fait nous sanctifient. Et c'est cela en fait, c'est que nous sommes sauvés par la connaissance de la parole de Dieu et réellement sauvés par la parole et par l'obéissance à cette parole. Mais après qu'elle ait fait ce travail de nous révéler notre péché, comme l'apôtre Paul a pu l'établir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, que dirons-nous donc? À partir du verset 7, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme tel, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, et puis l'apôtre ensuite pourra développer au chapitre 8 la loi de l'esprit de vie fondée sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais cette expérience, misérable que je suis, comme le psalmiste pouvait dire, je suis errant comme une brebis perdue. Seigneur, cherche ton serviteur. Le Seigneur nous amène à ce point où nous dépendons uniquement de lui, de sa grâce, où nous mettons notre confiance en lui et non plus en nous-mêmes pour parvenir à cette véritable libération. Et elle a lieu, cette libération, à ce moment-là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenons donc la parole de Dieu, déjà dans ses promesses initiales de délivrance, de l'annonce de l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour y croire et mettre notre confiance dans le Dieu de notre salut, mais prenons aussi la parole comme le miroir de l'âme, comme l'apôtre Jacques le dit, celui qui lit la parole voilà, se voit comme dans un miroir, et celui qui persévère dans cette étude de la parole, eh bien, il va être béni et heureux dans son activité. Donc prenons la parole comme un miroir de notre âme pour qu'elle nous révèle Dieu et ce que nous sommes devant Dieu pour être véritablement à ce moment-là prêt à nous laisser sanctifier par lui et être ainsi sauvés. Dieu cherche, j'avais marqué ici, des hommes et des femmes vidés d'eux-mêmes et qui n'ont plus qu'à mettre leur seul espoir en lui, en menant un vrai deuil sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, la victoire de Dieu s'accomplit. la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut agir et nous donner ce qui est de Dieu pour notre vie nouvelle. Amen.